Nous allons maintenant plonger dans les secrets du casse du Louvre, main basse sur le Louvre. C'est le titre de votre livre, messieurs. Et je vous accueille avec plaisir Jean-Michel Decugis, grand reporter au Parisien, Nicolas Charles Tourand, rédacteur en chef à Paris Match. Et on va citer votre troisième auteur qui n'est pas là, qu'on appelle l'homme invisible, Jérémy Famly. 3 minutes 52, c'est le temps pour réaliser ce casse spectaculaire dans la galerie d'Apollon. Pitchez-nous d'abord la scène.
Bah, ils arrivent à 4. Il y en a deux qui montent dans un monte-charge, et puis deux qui sont qui restent sur les scooters. Les deux qui montent, il y en a un qui a un gilet jaune, et puis l'autre qui est casqué, a une casque intégrale gris. Ils ont des disqueuses en main. Ils vont briser cette vitre qui est pas plus épaisse qu'une vitre de
maison de campagne. Oui, c'est ce que là.
Et ils vont rentrer à 9h34 et 10 secondes. L'alarme va sonner. On va pas l'entendre.
Hein. On les voit les photos. Elle est là, la nacelle. Vous voyez, elle
PC, est là. Et ils vont se diriger directement. Chacun sait où très bien où il va. Chacun va aller sur sa vitrine. Et là, ils vont faire la même chose dans leur disqueuse. Ils vont faire deux traits verticales, un trait horizontal, comme pour faire une trappe dans laquelle ils vont pouvoir glisser leurs mains au bout de 2 minutes. 2 minutes pour l'un, 2 minutes 10 pour l'autre qui est plus maladroit. Et ils vont récupérer les bijoux qu'ils vont mettre l'un dans sa poche, l'autre dans un sac noir.
C'est la suite qui est un peu bricolée.
Après, ils se disent que la police va bientôt arriver, et là, c'est la panique générale. Ils font tomber des bijoux.
Ils en perdent quelques-uns.
Formidable, c'est le dernier qui part et qui va faire une bascule. Et c'est là où il va basculer sur le
balcon. Char, ouais.
Et c'est là où il va perdre la fameuse couronne.
Alors, Jean-Michel, Nicolas, cette affaire, tout le monde la connaît maintenant. Tout le monde la connaît. Sauf que quand on lit votre livre, on la connaissait pas. C'est-à-dire, je sais pas où vous êtes allé chercher vos trucs, donc je suis l'inspection générale de la police nationale, et je vous dis, mais où êtes-vous allé chercher ces trucs-là? Qu'est-ce qui vous a parlé?
On révèle pas nos secrets de fabrication, d'abord.
Vous voulez pas me répondre?
Non. On est allé chercher là où il faut chercher, parce que on fait notre métier, et on enquête, et ça prend du temps. Et c'est des années d'expérience,
croisées,
exactement. Et de contacts et de sources, comme on dit dans notre métier. Donc effectivement, on est parti. Tout le monde connaît l'affaire, tout le monde connaît la scène qu'on vient de raconter. Et c'est tout ce qui a eu avant cette scène et après cette scène qu'on connaissait pas. Et quand on a démarré, quand on a commencé à travailler, tous les trois, on est parti avec les mêmes préjugés, les mêmes idées préconçues que tous les Français.
Et en fait,
après les autres, elles sont tombées.
Alors quand vous racontez le SDF qui vit sous sa toile de tente en face, la petite dame qui part travailler, qui va s'installer sur sa chaise dans la galerie Apollon, la chaise est trop lourde, elle la déplace pas, et de là elle aura pas l'angle de vision. Le type qui va faire son footing à Vincennes.
Ouais, c'est tous ces petits regards.
Tout ça, c'est les périodes d'audition. Ouais. Et vous savez où étaient les gens au moment où, et donc vous les réinstallez au début de l'histoire, c'est ça?
Mais en fait, la scène, d'abord, il y a énormément de témoins, il y avait beaucoup de monde à ce moment-là. Donc,
parce qu'on voit pas beaucoup sur les images de vidéosurveillance, on a l'impression qu'ils sont seuls dans Paris et qu'ils y vont comme ça.
Ça dépend quelle vidéo vous regardez. Ouais. En fait, il y a l'extérieur, c'est un dimanche matin, départ de vacances scolaires, enfin le premier week-end des vacances de la Toussaint, donc il y a personne dans Paris. En revanche, à l'intérieur du musée, il y a vraiment beaucoup de monde. Et ça se voit sur les vidéos. Les agents d'entretien, les agents d'accueil, dans le protocole, leur première mission quand il y a une attaque, quelle qu'elle soit, terroriste ou voleur, ou quoi, c'est de protéger le public. Donc c'est ce qu'on voit dans les vidéos. C'est-à-dire que les deux braqueurs entrent dans la galerie, les agents s'en rendent compte, se précipitent vers le public pour les éloigner au maximum. Et tous ces gens-là ont vu ce qui se passait.
Il y a ce jeu fabuleux entre un des surveillants qui a un peu de surveillance, qui va, qui recule, une espèce de danse comme ça. Ouais. Et il dira après son PV qu'il a eu peur.
Bien sûr.
Il n'est pas le seul, ils ont eu peur que les deux... parce qu'en fait, c'est un braquage. En fait, le mot braquage n'est pas le bon parce qu'il n'y a pas d'arme.
Ça, c'est Rachida des tirs.
Ouais, c'est pas un braquage, il n'y a pas d'arme. Ils arrivent avec deux disques. Alors, une disqueuse, ça peut faire mal, mais enfin, c'est pas encore une arme. Et donc, je pense qu'on aurait tous réagi de la même manière. Vous voyez deux personnes qui rentrent cagoulées dans la galerie d'Apollon avec un truc qui fait beaucoup de bruit dans les mains. Vous prenez peur et vous imaginez qu'il y a c'est une arme.
Ce qui est dingue, c'est que les voleurs, ils ne sont absolument pas dérangés, ils ne se soucient pas des surveillants. Ils sont là, ils font continuer à faire leur boulot. Et il y a les types qui sont derrière, qui s'en occupent absolument pas.
C'est le jogger qui appelle la police, c'est ça?
Le cycliste.
Alors, le cycliste. Voilà.
C'est lui qui donne l'alerte le premier.
Il appelle, il voit les gars monter. Ils sont pas encore dedans.
Parce qu'il se rend compte qu'il y a un truc qui va pas.
Ouais.
Parce que le type, il a un casque intégral, il se dit, ça va pas. Et donc, il fait d'abord une photo.
Ouais.
Et ensuite, il s'écarte, il appelle.
Entre le moment où il fait la photo et la fin du braquage, c'est quoi, 2 minutes? 2 minutes 30, 3 minutes.
Ça doit être ça, ouais.
Alors, et on est quand même juste en face de l'APP. On va dire pour ceux qui connaissent pas Paris,
la préfecture de police.
Merci. Le musée du Louvre, la Seine, le pont de l'autre côté, c'est la police.
Mais ça va très vite.
C'est le nid de guêpe, quoi. C'est vraiment le cœur du dispositif policier. Et il y a pas une bagnole qui vient faire un tour.
Alors si. En fait, donc d'abord, il y a eu pendant longtemps, on a dit que c'était le cycliste jogger. Il était à vélo pour rejoindre
une copine. Sportif,
quoi. Merci. tout le monde a dit que c'était le premier à avoir appelé la police. Pas tout à fait exact. Et c'est même faux, puisqu'il y a eu des alarmes dans le Louvre qui sont parties avant son appel. Mais son appel à lui est tombé au commissariat le plus proche. Et donc, ils ont envoyé une patrouille. La patrouille et à remonter le quai François Mitterrand en sens inverse, en sens interdit, ne sachant pas exactement où avait lieu le casse, ils n'avaient pas d'indication de lieu, ils sont passés devant le casse, devant le camion.
C'est moche.
Pendant que eux descendaient.
Ils ont été mal renseignés.
Et le temps de faire demi-tour, puisqu'il y a des agents d'accueil qui étaient déjà en train d'arriver sur le lieu en courant, ont fait des grands gestes pour leur dire « Vous venez de les rater, faites demi-tour. » Et là, à ce moment-là, les 4 braqueurs montaient sur les scooters pour partir vers Bercy.
D'accord.
Alors après, c'est un jeu de pistes à ciel ouvert. Je voulais vous montrer, nous, BFM TV, Ligne Rouge, on a planché sur une grande enquête sur la fragilité des musées. Au Louvre, comment expliquer que les cambrioleurs aient pu s'introduire aussi facilement? Pourquoi les mesures préconisées dans un précédent rapport, vous en parlez dans votre livre, n'avaient pas été appliquées? Et est-ce qu'il existerait des failles de sécurité dans le plus grand musée du monde? Regardez cet extrait.
Je suis complètement convaincu que le Louvre, aujourd'hui encore, pourrait être cambriolé. Il reste des failles. La Joconde, pour moi, c'est pas impossible de voler la Joconde. Je vais mettre des lunettes avec une petite caméra incorporée et vous allez pouvoir voir avec moi à travers les yeux d'un voleur. En fait, ils sécurisent le bas, tout bas pour rentrer et pénétrer, mais ils ne se rendent pas compte les failles qu'il y a dans les hauteurs. Tu rentres par là-bas, tu fais tout le tour la nuit, comme ça la nuit tu te balades sur tous les toits. T'as plein d'issues, plein de petits trous, plein de petites failles, des balcons de partout. Ils escaladent de fenêtre en fenêtre, de balcon en balcon. On appelle ça des montes en l'air. Les montes en l'air, c'est des spécialistes de l'escalade. Et là, t'arrives là, boum, t'as la Joconde qui est ici. Ok, il y a une plaque de verre, mais qui n'est pas inviolable. Avec une bonne disqueuse, tu l'éclates.
ça me paraît, le scénario me paraît vraiment très optimiste, très très optimiste. En théorie, on peut échafauder effectivement le vol de la Joconde, mais en théorie seulement. Bon, déjà, il y a des choses dont il n'a pas connaissance, mais c'est bien normal. Donc je pourrais vous dire un certain nombre de choses qui sont plus difficiles qu'il ne le dit, mais bon, voilà.
Les secrets du Louvre, un Ligne Rouge signé Jérémy Normand, Nicolas Baggioni, Lou Bourgoin, à découvrir très prochainement sur BFM TV. Alors maintenant, il faut qu'on parle de l'équipe des malfaiteurs. Moi, ce qui m'a bluffé dans votre bouquin, c'est le récit de toutes ces auditions. Devant les enquêteurs, ils vont au départ à peu près rien lâcher.
Rien. Oui, ils chiquent, comme on dit dans le jargon policier.
Ouais.
Ils mentent.
Ouais.
Et puis, à la 4e audition, il y a Doudou Crosbitume qui va dire qu'il veut parler. Et là, on va faire descendre le patron de la BRB en personne, la chef de groupe, pour l'entendre. Et là, bon, il va chiquer, il va raconter une histoire un peu rocambolesque, comme quoi il a, 2 jours avant le casse, rencontré dans un parc, quand il allait acheter du shit, du cannabis, deux Slaves, enfin deux personnes du pays de l'Est qui ont un accent slave, et qui l'ont proposé le marché, mais il savait pas qu'il allait braquer le Louvre, on l'a un peu forcé, quoi. Et puis ensuite, dans la foulée, le deuxième, Guélama, va lui dire un peu la même chose. Lui, il a rencontré dans la cité un certain Lazare,
Oui, alors là, il est plus des pays de l'Est, il a plus l'accent slave,
il a changé de continent.
Manifestement, c'est pas le même. Non, c'est n'importe quoi, il raconte n'importe quoi. Donc, au bout d'un moment, même les policiers qui les auditionnent disent, vous vous rendez compte que ce que vous dites est complètement absurde.
Mais c'est quoi leur point commun, ces quatre suspects?
Ils se connaissent tous depuis 25 ans, c'est vraiment des potes de cité. Ils ont grandi à Boervilliers, ils ont presque fréquenté le même bac à sable. Ils ont arrêté à l'école à peu près, pareil, 5e, 4e, 3e. Et puis, ils se sont forgés leur identité dans la délinquance, banditine. Parce que Doudou, le fameux Doudou, là, qui est célèbre.
Célèbre sur les réseaux sociaux.
Pionnier du rodéo urbain sur les réseaux sociaux. Lui, il a la main sur le cœur. Hein, c'est un type qui l'aide, il porte les sacs des bras. Il a les mains dans les vitrines des bijouteries.
L'un n'exclut pas l'autre, alors.
Il a deux facettes, c'est ça qui est marrant. Et avec lui, dans les quatre, c'est quand même le plus romanesque des quatre, parce qu'il a cette facette où tout le monde l'aime bien à Aubervilliers. Mais vraiment, c'est assez bluffant. Les rappeurs parlent de lui dans les chansons. Il porte les sacs de courses.
Gros capital sympathie.
Gros capital sympathie, puis quand même grosse délinquance, quoi, parce qu'il se fait choper sur un braquage de distributeur de billets. On prend son ADN, on se rend compte que ça match avec le braquage d'une bijouterie quelques mois auparavant. Un braquage assez costaud. Et alors, plus on avance dans l'enquête, et plus on se rend compte que c'est un délinquant chevronné. Le braquage de bijouterie, on voit que c'est un braquage à main armée. Et puis, plus on enquête, plus on se rend compte que c'est pas très clair. C'est armé, mais en fait, les armes, c'était des fusils en plastique.
Tactique,
ouais. Puis, en fait, on se rend compte que c'est un type rigolo qui fait un peu n'importe quoi. Il laisse son ADN partout, quoi.
Nicolas, comme disiez tout à l'heure, à la police, ils disent rien. Est-ce qu'ils disent rien pour se protéger tous les quatre? Est-ce qu'ils disent rien de ceux qui sont au-dessus? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens au-dessus, vous?
Alors, tous les deux. Longtemps, les enquêteurs ont pensé qu'il y avait un commanditaire, qui est la piste privilégiée. Au bout de 7 mois d'enquête, avec des investigations très approfondies, voitures sonorisées, écoute, surveillance physique, il n'y a absolument aucune trace d'un donneur d'ordre, etc. Et aujourd'hui, tous les fils renvoient à Aubervilliers, à cette bande de potes, qui a sans doute préparé ce casse entre eux.
Ce casse culotté, quoi.
Alors on se parle, il n'y a pas le début d'un indice, de preuve, de quoi que ce soit, d'un commanditaire quelconque.
Okay.
Vraiment.
Qu'est-ce qu'ils ont fait des bijoux? Qu'est-ce qu'ils peuvent en avoir fait? Et qu'est-ce que ça vaut, ces bijoux, quand on habite à Aubervilliers ou ailleurs, et qu'on n'a pas quelqu'un qui va... Qu'est-ce qu'on peut faire de ça?
Il y a deux hypothèses. Soit les bijoux sont toujours en France cachés.
Ouais.
Parce que c'est possible, c'est parce qu'ils sont arrêtés très vite, au bout de 6 jours. Ils étaient sur surveillance même avant. Donc, difficile de se débarrasser des bijoux. Mais la piste aujourd'hui qui semble la plus privilégiée, c'est quand même qu'ils ont réussi à faire partir les bijoux quelque part. La piste du receleur, il y a une interception de Rachid, le quatrième qui a été interpellé, et qui parle avec sa sœur et qui dit les trucs, il parle des bijoux, les trucs, chacun aura sa part. Si on arrondit à 20, il dit un gros mot derrière, on dira pas. Donc ça, évidemment, ça intrigue et ça laisse penser qu'il y a une piste de receleur.
Par ailleurs, en fait, il y en a un dans les quatre suspects, Slimane, qui a un parcours de délinquant un peu plus charpenté que les autres, et dans lequel il est tout à fait probable qu'il y ait une structure criminelle avec des receleurs.
Une filière, quoi.
Oui, c'est probable, parce qu'on trouve dans un local auquel il a accès, on trouve des pierres de touche, donc un objet qui sert à tester la pureté de l'or. Avec des produits chimiques, donc on n'a pas ça par hasard. Enfin, même si vous faites de la mécanique sur votre scooter, vous n'avez pas des pierres de touche dans votre garage.
Ok. Alors la justice, en la personne de Laure Becquiaux, qui était venue d'ailleurs sur notre antenne, la procureure de Paris, elle avait expliqué en substance que si des informations étaient données sur les bijoux, on pourrait en tenir compte à l'audience, que ça pourrait atténuer, comprenons, le sort judiciaire. C'est quoi la carte?
C'est une carte, c'est celle-là, justement. Maintenant, en plus, c'est qu'il y a un statut de repenti. On peut imaginer qu'effectivement, à un moment ou à un autre, il parle.
C'est jouable?
Oui, c'est jouable, je pense.
C'est jouable parce qu'aujourd'hui, en bande organisée, ils encourent 15 ans. Alors qu'un vol simple, c'est 5. Un vol patrimonial, c'est 7. Enfin bref, pour faire simple, ils passent de 7 à 15. Ils ont des enfants en bas âge. Est-ce qu'ils avaient prévu ça dans leur scénario? Peut-être pas. Et donc, est-ce qu'ils vont négocier pour faire baisser, pour faire sauter la bande organisée, comme on dit?
Après, ce qui va jouer, sans doute, c'est aussi l'état des bijoux. Ouais. Est-ce qu'on les retrouve ou on en retrouve une partie?
Est-ce qu'on les retrouve grâce à eux ou sans eux?
Dans d'autres cases comme ça, on a retrouvé bien après les bijoux, etc.
Plusieurs années, parfois.
Là, l'idée, c'est de savoir, voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait de ces bijoux, s'ils les ont dessertis et toute la valeur aura disparu, patrimoniale.
La valeur patrimoniale. Mais ce qui nous fait mal à tous, c'est ça, parce que on raconte un braquage rocambolesque, ça va faire des films, des séries, des documentaires, et on va en parler dans les livres d'histoire. La vérité, c'est que c'est un bout du roman national qui nous a été dérobé à ce moment-là, et ça, quand on y pense, on est tous affectés.
Nous, on est affectés, mais les anglo-saxons, ils rigolent beaucoup. Ça a fait beaucoup rire.
Ouais, mais nous, ça nous fait pas rire.
Et si ces quatre-là ne collaborent pas, disent pas où sont les bijoux, qu'est-ce qu'ils risquent? C'est quoi les peines?
15 ans en bande organisée. C'est bande organisée, donc c'est 15 ans maximum.
Leurs avocats, c'est des costauds, des bons avocats,
Il y a un peu de tout.
Et surtout, il y a des auditions très prochainement. Donc c'est ça qu'on va suivre la semaine prochaine.
Absolument.
Des avocats de voyous.
Il y a une avocate de voyous. Il y a des avocats qui font la conférence de stage, qui sont réputés, qui ont beaucoup d'éloquence. Des jeunes.
Il y a eu des changements d'avocats au cours de la procédure.
Beaucoup changé d'avocat aussi.
Donc ça va batailler au procès.
On va voir. D'ici le procès, il faut déjà, et l'enquête n'est pas finie.
Et puis entre-temps, on espère quand même toujours pouvoir retrouver ces bijoux, même si on a compris que c'est pas l'option la plus probable et que vous dites qu'il y a probablement une filière de receleurs. En tout cas, il y a deux hypothèses solides sur la table.
C'est sûr qu'il y a une piste de receleurs. Après, est-ce que ils ont été écoulés? C'est une autre question.
Dans quel état sont-ils? Est-ce qu'on les retrouvera un jour, Dominique, vous pensez?
Écoutez, moi j'aimerais bien qu'on les retrouve. Hein. Je suis comme tout le monde. J'ai jamais vu ces bijoux, je suis jamais allé au Louvre. Et je pense que si il les restituait au Louvre, j'irai voir à quoi ressemblent ces bijoux.
C'est
d'une grande tristesse, quoi.
C'est que, en fait, vous demandez aux gens dans la rue, le Louvre, on s'attend pas à ce qu'il y ait des bijoux au Louvre. Les gens qui savent qu'il y a des bijoux au Louvre, c'est soit des gens qui connaissent très bien le Louvre, soit des gens qui ont envie de les voler. Ouais. Et donc, comment ils ont eu envie de voler ces bijoux? Est-ce qu'ils ont eu un tuyau ou des commanditaires? C'est toute la question.
Passionnant. Merci de nous avoir. Bravo. Merci messieurs. Merci pour cette enquête. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Merci Dominique de m'avoir accompagné.